empreinte.
Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont partie prenante du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de changemakers, des femmes et des hommes, qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Et avec moi pour ce nouvel épisode, André Bonnard, éleveur laitier et engagé dans la défense des intérêts des producteurs. Il est aujourd'hui cofondateur et président de Né d'une seule ferme. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir cette entreprise utile qui a pour projet de remettre le bon sens au cœur de la chaîne agroalimentaire en mettant à disposition des consommateurs, des produits peu transformés, traçables et assurant une juste rémunération des producteurs. Vous ne connaissez pas encore cette entreprise responsable, alors laissons André nous en dire un peu plus. Bonjour André.
Bonjour.
Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore votre entreprise utile, pouvez-vous nous la présenter ?
Alors, Né d'une seule ferme, c'est une start-up, c'est comme ça qu'on dit, je crois, mais voilà, ça me fait marrer de dire start-up, qui offre une solution clé en main aux producteurs pour transformer le lait de leur ferme en yaourt sur la ferme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et cette solution clé en main, bah, ça veut dire qu'on propose un container. L'originalité, elle est là. C'est un container, voilà, le container maritime, celui dont on entend parler régulièrement. Là-dedans, on met une micro-usine, donc on met tout ce qu'il faut pour transformer du lait en yaourt. Alors, vous savez, transformer du lait en yaourt, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste une histoire de ferment, un peu de chaud, un peu de froid. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Mais bon, voilà, il faut quand même imaginer ça, le faire comme il faut. Et c'est un produit alimentaire, donc c'est quand même un produit où la sécurité sanitaire est importante. Donc tout ça, on le fournit et on fournit aussi le client. Et on fournit la marque, et on fournit tous les consommables, on fournit tout ce qu'il faut pour mettre en avant le produit. Parce que ce n'est pas le tout de fabriquer des yaourts, mais après, une fois qu'on les a fabriqués, il faut les vendre, il faut convaincre des consommateurs, il faut savoir expliquer qui on est, comment on a fait ça. Et voilà, tout ça, c'est une histoire qu'on met à disposition du producteur pour qu'il puisse être visible et que le produit se vende.
Et justement, Né d'une seule ferme porte aussi un joli projet plein d'espoir et de sens. Quel a été votre parcours pour arriver à sa conception ?
Mon parcours, vous avez deux jours. Sur mon parcours, c'est pas très compliqué. En fait, j'ai une expérience d'abord de producteur de lait, hein, bêtement. Et en fait, il se trouve que je suis installé entre Saint-Étienne et Lyon. Donc, entre Saint-Étienne et Lyon, ça veut dire que mes voisins sont nombreux et sont avides de produits de ma ferme. Donc, notre ferme est tournée vers la vente directe depuis que je me suis installé. Hein, moi, je me suis installé en 2000 sur la ferme. Depuis toujours, on transforme les produits, on transforme d'abord des volailles, et puis on s'est mis à transformer du lait, puisqu'on a des vaches laitières. Donc on transforme le lait en fromage et en yaourt. La petite histoire, c'est que ce projet de transformation est arrivé par un nouvel associé qui nous a rejoint en 2009. Tout se passait bien. Deux ans plus tard, son épouse nous a rejoint et donc a démarré la production de yaourt. Malheureusement, le couple a explosé et tout le monde a quitté l'exploitation en deux semaines. Cette mésaventure est un peu fondatrice de Né d'une seule ferme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils sont partis, ben, on s'est retrouvé avec un atelier de transformation sur notre ferme. On avait investi 120 000 euros dans l'atelier et plus personne pour le faire tourner. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus personne pour le faire tourner ? Vous avez deux solutions. Soit vous êtes capable de recruter quelqu'un immédiatement pour faire le boulot. Chercher des fromagers sur le marché du travail, vous allez voir, ils n'en trouveraient pas des masses. L'autre solution, ben, c'est de tout vendre. Et la solution de tout vendre, en fait, on ne l'avait pas, parce qu'on avait investi 120 000 euros. Et quand on
avait... Ça faisait 9 ans que vous y étiez. Donc
oui, non, mais vendre juste l'atelier de transformation, ça aurait été une solution. Sauf que, en fait, ce n'est pas vendable, parce que c'est essentiellement des murs, des frigos et compagnie. Donc, ça n'a pas de valeur de revente. Et donc, du coup, Né d'une seule ferme, la solution en container, elle vient de ça. Elle vient de se dire, ben voilà, quand on met une activité de transformation dans une ferme, une ferme, c'est petit, c'est deux personnes, trois personnes. Il peut arriver des accidents. Je veux dire, bon, là, c'est un accident de vie de couple, mais il y a plein d'autres raisons qui font que tout d'un coup, ben non, c'est plus. Comment on fait pour que ce soit réversible ? Et ben, en fait, l'idée du container, c'est ça, c'est la réversibilité. C'est l'idée de se dire, ben voilà, je mets le container, tant que tout va bien dans l'exploitation, on produit. il y a quelque chose qui se passe mal. À la limite, on n'a plus envie d'avoir de vache laitière. Mais c'est pas grave. On met le conteneur sur un camion, on va bouffer au resto, on se salue, et on emmène le conteneur dans une autre ferme qui va se mettre à nouveau à produire, et on a abîmé personne. Ni endetté l'exploitation, ni fait d'une friche industrielle, entre guillemets, dit autrement, mais c'est tout à fait. Enfin, c'est le cas aussi, hein, dans des exploitations qui arrêtent un truc, ben voilà, vous vous retrouvez avec un bâtiment qui ne sert à rien et ce n'est pas utile. Donc voilà, cette expérience personnelle a été extrêmement impactante sur Né d'une seule ferme. Et mon autre expérience professionnelle, c'est que j'ai été syndicaliste. Grand mot.
Vous faites presque peur. Hein.
Mais, voilà. Mais non, mais c'est très important ce truc-là de syndicalisme parce qu'en fait, j'ai participé à des instances qui sont l'interprofession du lait. Vous connaissez les produits laitiers, je ne vais pas vous le chanter, mais franchement, vous connaissez.
Ça y est, je l'ai dans la tête, c'est fini.
Mort. Dans cette instance, on fait beaucoup d'études sur c'est quoi l'image des produits laitiers. Et il y avait deux choses qui, pour faire court, étaient importantes. Une image des produits laitiers qui avait tendance à s'éroder avec un client qui posait des questions assez simples sur. Il y a quoi dedans? Comment c'est produit? Est-ce que finalement, il n'y a pas des additifs dont on n'aimerait pas? Des questions, pas vraiment des remises en cause, mais des questionnements, ce qui fait que globalement, il y avait une petite érosion de l'image des produits laitiers, lente et continue. Et en même temps, il y avait une montée de l'image des produits issus du circuit court, des produits peu transformés. Voilà. Donc, je voyais bien ces deux choses-là. Et donc, en tant que responsable syndical, mon réflexe aurait dû être de dire à mes copains producteurs, « Allez-y les gars, foncez, transformez !» Sauf que je savais ce qui m'était arrivé. Et je savais que ce n'était pas si simple. Quoi. Ce n'est pas parce qu'on avait envie d'y aller que... Voilà. Et donc du coup, ben voilà, Né d'une seule ferme, c'est vraiment l'histoire de mes deux expériences. C'est-à-dire, je sais qu'il faut y aller, je sais qu'il y a un marché, j'ai envie que ce soit les producteurs qui le fassent parce que je suis syndicaliste et je n'ai pas envie que ce marché en développement soit pris par des artisans et compagnie. Moi, je veux que cette valeur remonte jusqu'aux producteurs. Ça, c'est très important dans le projet Né d'une seule ferme. C'est qu'on remonte l'argent jusqu'au producteur. Et donc, la meilleure façon de remonter l'argent jusqu'au producteur, bah, c'est que la transformation s'y fasse. Hein, c'est quand même la meilleure solution. Mais voilà, après, il fallait régler tous les autres problèmes. Voilà, il se trouve que j'ai rencontré un associé qui m'a dit « Mais arrête d'en parler, fais-le. »
C'est bien, voilà, aussi simple que ça. Vous ne m'avez pas dit d'où venait ce titre, Né d'une seule ferme?
Ah, Né d'une seule ferme, c'est venu d'un brainstorming assez expéditif, on va dire ça comme ça. En fait, Maximilien, mon associé, avait lu un bouquin qui s'appelait « Né d'aucune femme ». Et voilà.
Un très beau livre.
On a transformé le titre de ce livre en Né d'une seule ferme. C'est la petite histoire dans l'histoire.
Très joli. Juste avant, j'aimerais bien aussi que vous me parliez de votre travail de producteur, parce que justement, là aussi, vous avez une promesse forte, c'est de revaloriser le travail des producteurs et améliorer leur rémunération.
Ça a été toute mon histoire du syndicalisme. Je me suis battu contre une rémunération qui est injuste, injustement basse des producteurs de lait. Alors, je crois que l'idée a fait son chemin depuis 5-10 ans. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées dans la tête des gens. Enfin, je vais le dire très clairement, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des producteurs de lait qui ne gagnent même pas le SMIC avec une astreinte de malade. Parce que traire des vaches, c'est 7 jours sur 7, c'est 2 fois par jour. Et c'est de l'élevage. C'est-à-dire que les gens s'imaginent très bien que le chat qu'ils ont à la maison, tous les jours, il faut s'en occuper. Mais c'est un chat. Donc, à la limite, on trouve une solution. Mais quand vous avez 50 ou 60 vaches, un troupeau moyen en France, c'est 60 vaches laitières, ben, ça veut dire que ça prend du temps quand même pour s'occuper des 60 vaches. Et c'est tous les jours. Et si on ne le fait pas, tout fout le camp, ça mérite une juste rémunération. Quand on transforme les produits, évidemment, on donne plus de valeur. L'enjeu, c'était de remonter cette valeur jusqu'au producteur. Je cite un exemple, parce que c'est un truc que mes associés vont se marrer s'ils entendent ça, mais quelque chose qui m'a énormément inspiré, c'est les microbrasseries. Les microbrasseries, grosso modo, dans les années 2000, la bière, c'était quand même un truc qui saoulait les jeunes et qui les tuait sur la route. Voilà, basta. Puis, les microbrasseries sont arrivées et la bière locale est devenue un produit sain, naturel, agricole, tout ce que vous voulez. Ça tue plus les jeunes, quoique.
C'est hype aussi.
Voilà, il y a un traître. Ouais. Voilà. Et il y a un seul problème. C'est que mes copains qui font de l'orge de brasserie sont toujours payés sur le Matif, qui est une cotation à Chicago. C'est normal, ça? Ça, c'est pas normal.
C'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous nous...
La valeur ne remonte pas jusqu'au producteur. La valeur, elle s'arrête chez le microbrasseur. Il n'y a pas de microbrasseries qui sont installées dans une ferme. Hier, j'étais avec un jeune stagiaire de notre équipe qui m'a dit que son grand-père avait une brasserie dans la ferme, dans les années 60. Alors, il m'a dit, c'est super vieux, c'était les années 60. Sympa, les garçons. Et elle n'existe plus. Et pourtant, dans son village, il y a une microbrasserie. Mais elle n'est pas dans sa ferme. Et comment on fait pour remonter la valeur? À mon avis, il n'y a qu'une solution, hein, c'est qu'on tienne les choses vraiment jusqu'au bout en mettant l'activité de transformation dans la ferme. C'est la meilleure façon, la meilleure assurance pour amener la rémunération. Et donc, du coup, effectivement, quand on a discuté avec Intermarché sur le prix de nos produits, eh ben, on a fait un calcul, mais pas si compliqué que ça, pour dire, ben voilà, il faut que ce soit ce prix-là au consommateur pour permettre une rémunération à 550 euros les 1000 litres au producteur. C'est l'engagement qu'on a pris. Et cet engagement de 550 euros les 1000 litres, ça signifie grosso modo 60% de rémunération de plus au producteur. Avec un emploi en plus, c'est-à-dire qu'il y a un emploi dans la ferme et une rémunération supplémentaire du lait qui est transformé. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas ce projet. Je le dis tout le temps aux gens qui maintenant nous ont rejoints dans l'aventure. M'amenez pas un projet qui dirait qu'on dégrade ça. Vous savez déjà que c'est non. C'est l'essence du projet, c'est mon moteur.
J'ai une autre question à vous poser sur la signature impactante que vous intitulez « Fabriquer à deux pas ». Selon vous, pourquoi est-il essentiel que la production locale s'intègre dans nos habitudes de consommation ?
Il y a un truc aussi que je dis souvent, c'est local et localisé. Et en fait, né d'une seule ferme, c'est là où ça prend du sens, c'est que c'est une traçabilité à la ferme. Dans un yaourt Danone, vous avez à peu près 800 fermes. Dans un yaourt, dans un pot de yaourt, on a mélangé le lait de 800 fermes. On n'est pas capable de remonter à la traçabilité de la ferme. Parce que, ben voilà, on collecte le lait dans les fermes, on le met dans un stock qui va déjà diluer, on va dire, le lait de chaque ferme. Puis à la fin, ben, on n'a pas de traçabilité qui est capable de remonter jusqu'à la ferme. Ce qui fait que ça oblige des gens comme Danone à dire, ben voilà, tout le monde pareil, tout le monde égal. C'est-à-dire qu'on fait des cahiers des charges aux producteurs en disant, ben voilà, il faut produire dans telle et telle et telle condition pour que je puisse dire que dans mon yaourt, ben, il y a telle et telle condition de production. Avec Né d'une seule ferme, on peut dire bien mieux que ça. On peut dire, ce yaourt, il est fait avec du lait de cet élevage, et cet élevage, il fonctionne comme ça. Pourquoi il fonctionne comme ça ? Parce que, ben, c'est, voilà, il y a des pâtures juste à côté de la stabilisation des vaches, donc il peut le faire. Lui, il a préféré un robot de traite, donc voilà, les vaches sont traites à l'heure où elles veulent, donc il fait ça autrement. Je vais le dire autrement, j'aime pas les cahiers des charges, j'aime pas les dogmes. Moi, j'aime les choses où les gens s'adaptent, c'est-à-dire que, parce que c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est que si vous mettez un cahier des charges, il y a toujours un moment où il n'est pas adapté et il vous fait faire une connerie. Il vous fait faire un truc qui n'a pas de sens. Et alors que là, on a, alors le bon sens paysan, ce n'est pas de moi, mais je pense que tout le monde on voit bien ce que ça veut dire. Si une ferme, elle fonctionne comme elle fonctionne, il y a une logique. Il faut comprendre cette logique. Et puis après, effectivement, il y a des démarches de progrès. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas vues. Et ça vaut le coup de challenger un peu son modèle et dire, bon, ben voilà, tiens, si j'allais là, est-ce que ça ferait ? Qu'est-ce que ça ferait si j'allais là ? Nous, aujourd'hui, on dit aux éleveurs partenaires s'engager dans la filière bas carbone. Pourquoi la filière bas carbone ? Moi, c'est quelque chose auquel je pense que le changement climatique, c'est un problème de carbone. Enfin, je suis scientifique de formation. Il me semble que, vraiment, si on diminue notre émission de carbone, alors on a... Et pour diminuer son émission de carbone, il y a 1000 chemins. C'est lequel le chemin le plus adapté à cette ferme ? C'est ça pour moi l'enjeu. Et je ne supporte pas l'idée de dire, bon ben voilà, tout le monde applique ce cahier des charges. Ben, il y a des gens chez qui ça va faire augmenter le carbone et d'autres ça va faire baisser. Donc non, on y va à la ferme. Et je pense que voilà, local, localisé, ça veut dire ça.
Sur
ça veut
mesure.
Dire tout ça, sur mesure, voilà.
J'ai aussi une question, puisque alors chez CBA, le design est très important. Alors, est-ce que c'est antinomique, justement, d'avoir une ferme responsable, etc. Et, ou est-ce que vous réfléchissez là aussi au design ? C'est important pour vous ?
Oui, alors, moi, je suis originaire de Saint-Étienne. Donc, le design, ça fait quelques années qu'on sait ce que c'est. On a appris le mot il y a longtemps. Une marque, ce n'est pas qu'un nom, ce n'est pas qu'un logo. C'est tout un ensemble, c'est tout un système. Et je le dis souvent à Éléonore, qui travaille avec nous sur le marketing. Un jour, elle me dit, bah, si on faisait ça, je dis, écoute, ne me mets pas un truc. Dis-moi comment ça fait tout bouger, parce que sinon, oui, bah, ça, pourquoi pas. Mais comment ça s'insère avec le reste ? Je n'ai pas de formation à la communication. Et c'est, je crois que justement,
on ne peut pas être formé sur tout,
oui,
quand même.
Non, mais voilà, moi, je réagis qu'à l'émotionnel, on va dire ça comme ça, comme n'importe qui. Et je me rends bien compte qu'effectivement, si on amène un bout d'un truc, bah, ça ne marche pas. Ce qui fait que, bah, on a une émotion, on n'a pas une émotion, c'est un système. C'est un système, c'est je t'ai vu là. Et à chaque fois, ça m'a interpellé. Et donc, du coup, ça crée une émotion. On n'a pas trop mal réussi le truc.
Vous pouvez me le décrire ?
Ouais, mais globalement, il y a à la fois, je veux dire, la marque, la signature, le logo, les couleurs, bah, tout ça, ça fonctionne ensemble. Alors, là où on l'a le plus vu, en fait, c'est au salon de l'agriculture. Hein. C'est-à-dire, le lancement, c'était au salon de l'agriculture, c'était en grand, c'était partout. Je vais le dire comme ça, mais sur le stand, qui était donc un stand commun, Intermarché et Né d'une seule ferme, très franchement, on voyait que Né d'une seule ferme. Peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais vraiment, je trouve que ben, ça attire l'œil, ça amène un réflexe d'intérêt. Je crois que c'est juste ça qu'il faut. Parce qu'après, L'histoire de Né d'une seule ferme, j'allais dire, elle est assez facile à raconter. Comme dit Maximilien, mon associé, on coche toutes les cases. Donc, effectivement, c'est assez facile d'intéresser les gens. Mais il faut avoir le truc qui attire les gens quand même pour venir vous causer. Quoi. Alors, là, on fait des animations commerciales dans les magasins. Tous les petits jeunes là, qui font ça, ils n'ont aucun mal à arrêter les gens dans les rayons pour leur parler du produit. Parce qu'ils sont attirés là, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, donc il y a juste à leur parler.
Il y a un QR code, c'est ça, oui. Sur le produit, vous pouvez nous raconter ?
Ben voilà, ça revient sur mon histoire de localiser. L'idée, c'était de dire, ben voilà, comment on fait pour parler de la ferme ? Et ben en fait, la meilleure façon qu'on a trouvée, en fait, c'est de mettre un QR code sur le produit. On flash le QR code et ça renvoie sur la page du producteur. Et là, vous avez toute l'histoire du... Ça, c'est un truc, par exemple, la restauration en foyer, ça les intéresse vachement. Parce que ben, quand vous êtes à la cantine, en plus avec le Covid, vous vous retrouvez tout seul. Et en plus, c'est un peu chiant, quoi. Manger tout seul dans son coin. Donc, vous avez souvent votre téléphone, mais au bout d'un moment, à regarder les conneries sur Closer et Gala, c'est drôle, mais bon, à un moment, on s'emmerde. Et bien, en fait, le conso, il a une petite expérience sympa. Il flash son QR code. Et ben voilà, pendant qu'il est en train de manger, il voit les yaourts, ils ont été fabriqués par Elsa. Là-bas, il y a des Montbéliardes. Et puis, voilà, ils leur donnent des noms drôles à leurs vaches. Voilà, en fait, c'est l'exemple d'une ferme qui est particulièrement intéressante. Enfin, chaque ferme a ses particularités. Et ça veut dire que bah, globalement, moi, le conso, il sera capable de raconter d'où vient la ferme du yaourt qu'il a mangé.
Donc du lait jusqu'au marketing, jusqu'au packaging, en fait, ouais. Ça, c'est très important.
Ouais, je crois que c'est ça qu'on apporte. Né d'une seule ferme apporte ça par rapport à du yaourt, il n'y a pas que nous, quoi. On va dire ça comme ça, du yaourt, il y en a quand même pas mal. Mais qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à la catégorie que les autres ne sont pas capables d'apporter ? Ce qu'on est capable d'apporter, c'est cette traçabilité intégrale. Ce processus de transformation extrêmement simple, hyper facile à comprendre pour n'importe qui permet de se projeter. C'est-à-dire que globalement, même si vous êtes dans une cantine dans le 18e à Paris, vous avez l'impression de pouvoir être à la campagne pendant 2 minutes.
Alors d'ailleurs, le travail de CBA sur le branding de votre projet a remporté plusieurs prix. L'or dans la catégorie design global des prix Topcom et très récemment le bronze dans la catégorie design global de la marque des grands prix Stratégie. Alors d'abord, félicitations.
Oui, alors là, pour le coup, objectivement, c'est pas des fermes qui a tout fait, mais bon, allez-y, ouais,
été accompagné et vous avez dit oui. Ouais. Et selon vous, l'identité de votre marque participe-t-elle aussi, du coup, à la réussite de votre projet ?
Il n'y a pas de mystère là-dessus. Je veux dire, on ne peut pas avoir un projet si ça ne résonne pas aux gens. Quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on parle de vous. Je veux dire, une start-up, il y a des phases, qui s'appellent des levées de fonds. Et notamment, dans les levées de fonds, faut convaincre des gens d'investir de l'argent sur votre projet. Vous investissez pas juste avec une idée, c'est pas vrai. Il faut que ça soit concret. Et on voit bien que plus on avance dans le projet, plus c'est facile entre guillemets de convaincre, parce que plus ça devient très concret, les gens voient où ça va. Et évidemment, l'identité de la marque fait partie du projet. Et ça a commencé par là. Hein. On va être très honnête. C'est-à-dire, l'idée, on l'avait dans la tête. Et je pense que c'est à la deuxième réunion de travail que le nom est sorti. Et c'est à partir de là qu'on a travaillé. Alors effectivement, il se trouve que nous, comme on a eu le salon de l'agriculture à préparer. C'est-à-dire 3 semaines après avoir décidé d'y aller, ça a été un peu charrette, un peu fou, je pense, pour les équipes, notamment de CBA, qui se sont retrouvées à bosser dans une urgence de malade. Mais je crois que ça a aidé le projet, finalement. L'urgence, ça stimule. Voilà, ça a produit quelque chose qui est évidemment perfectible, évidemment qu'on améliorera dans le temps, mais voilà, le go, il était là.
Et alors, André, avec toute votre expertise, pour vous, qu'est-ce qu'une marque utile ?
Je pense qu'une marque utile, c'est une marque qui permet au consommateur de se projeter, d'imaginer que là, par son acte d'achat, il est capable de changer les choses. C'est cette fameuse théorie du colibri, toute conne, qui est de dire, certes, je vais pas balancer ma bagnole parce que j'en ai besoin. Comment je peux faire pour compenser ? Moi, je suis très, très favorable à la théorie de la compensation. Je pense que demander aux gens de tout changer, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce que punaise, il y a des conforts dont on n'a pas envie de... Et il y a un moment, on peut compenser. On peut compenser, ouais, alors effectivement, j'entends tout le débat qui est de dire, oui, enfin, sauf que si vous allez compenser au Sénégal, planter des arbres au Sénégal parce que vous avez pris l'avion à Paris, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est vrai. On peut compenser sur place. Et je pense que voilà, c'est un peu ça l'idée du local et du localisé, c'est non seulement raconter des choses, connaître des choses, mais compenser sur place. Et c'est-à-dire, ici, là, je suis en train de faire un truc qui n'est pas super pour l'environnement, ok, mais je fais autre chose qui me permettra de compenser. Voilà, je pense que ça, c'est utile. Voilà, je reprends votre mot, c'est utile et qu'on ait des marques qui permettent aux consommateurs de se repérer. Ben, c'est utile.
Et pour finir, vous, personnellement, qu'est-ce que vous allez laisser comme empreinte en 2021?
J'ai fait une petite blague, mais je pense que je vais laisser une empreinte de béton. mais... je suis sûr que les auditeurs vont pas être tous, mais voilà. Non, mais l'empreinte que Né d'une seule ferme a pour ambition de laisser, c'est effectivement cette empreinte du changement. Vraiment, l'empreinte du changement de un produit peut être local, peut être avec une recette simple, mais accessible là où on fait ses courses d'habitude. Et ça, moi, j'aimerais bien qu'on garde ça de Né d'une seule ferme, cette accessibilité au plus grand nombre d'un produit vertueux.
Merci mille fois, André, pour ce passionnant entretien.
Merci de m'avoir invité, et puis merci à ceux qui nous auront écoutés.
Au revoir.
Merci, au revoir.